il est 15h, on n'a pas mangé chaud, dis donc. Alors, je cherche le bon restaurant de l'autoroute, il s'appelle Courtepaille.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pour commencer, salade d'accueil. Ma femme, qu'est-ce qu'elle a pris déjà? Attends. Elle, elle a pris un tartare d'aubergine, pas mal. Mais c'était sur du fromage blanc, elle aimait pas. J'ai dit, t'as qu'à le laisser.
On est bien entre curieux.
Et moi, j'ai pris, il s'appelle jambon sec.
Ah oui?
Et ben, il était très bon.
Tu prends du blé chez Courtepaille, là. C'est pas possible, tu l'as dit 5 fois
sur RTL.
Ben oui, ça, je vais te dire encore une fois Courtepaille.
Quand Pierre Bénichou est fan et va à manger aux Courtepailles. Bonsoir Anaïs Bouissou.
Bonsoir.
Bonsoir Anaïs.
C'est un bonheur de vous avoir au micro de cette émission. Vous êtes journaliste au service Écho d'RTL. Merci d'être là pour notre dernière semaine de curiosité inédite. Vous êtes souvent venu dans l'émission.
Merci.
Vous avez
de
toujours
m'inviter.
Des histoires passionnantes à nous raconter. Et là justement, on a eu cette idée de raconter l'histoire de ces marques qui bercent ou ont bercé nos étés. On va commencer par l'actu, justement, la chaîne de restauration Courtepailles qui va changer de main, de propriétaire. Vous nous rappelez un peu le concept de ce restaurant qui symbolise nos vacances?
Oui, c'est un concept simple.
Jambon sec.
ça débute en 1961.
Oui.
C'est un entrepreneur, Jean Loisier, qui décide de s'installer non pas au centre d'un petit village touristique, non pas au centre d'un endroit où il va y avoir des gens, mais plutôt sur un lieu de passage. C'est-à-dire, c'est le bord de la Nationale 6. Ça, c'est en Bourgogne. Et il se dit, voilà, je vais lancer un concept de restaurant où les vacanciers vont s'arrêter le long de leur voyage. Et donc, c'est pour ça qu'il va lancer cette chaîne. D'abord, ça commence par un restaurant. Et puis, il va y avoir toute une chaîne de restaurants qui vont se développer sur toutes les routes de France.
Mais ça reste concentré au départ sur la Bourgogne,
à l'origine,
ce
c'est juste un restaurant.
Ouais.
Et puis, ça fonctionne tellement bien qu'il va y en avoir un deuxième. Et puis, il va y avoir toute une chaîne de restauration qui va se développer en 10 ans. Ça va être incroyable.
Il n'y a pas encore d'autoroute à cette époque?
Non, c'est la nationale.
C'est vraiment le long
de
la
nationale. Ouais. Ensuite, effectivement, il va y avoir des restaurants qui vont se développer le long d'autoroutes, le long d'air, enfin, pas très loin d'air de repos, pas très loin. Dès que les vacanciers peuvent être amenés à s'arrêter quelque part, le pari qui est fait, c'est qu'ils s'arrêtent pour manger dans les Courtepailles.
Et puis il faut dire que les Courtepailles, ça aussi, c'est un lieu, ça a une allure assez reconnaissable pour les vacanciers ou les voyageurs.
C'était une bonne idée, ça.
Oui. Tous les restaurants sont faits sur le même mode, c'est-à-dire que c'est des restaurants ronds avec un espèce de toit de chaume.
On se croirait un peu dans les BD d'Astérix,
il y a
un petit...
Quand on rentre à l'intérieur, on voit la cuisson des aliments aussi. C'est pas de la grande cuisine, c'est pas du 3 étoiles, mais c'est simple, c'est rapide, c'est efficace pour les familles, c'est juste parfait.
Andouillette moutarde, moi c'était mon
très bien.
Voilà, non mais ça vous intéresse sûrement, j'étais sûr que c'était très important de le dire.
Moi, mes parents, ils faisaient des petits sandwichs, ils mangeaient des petits sandwichs sur les aires de repos.
Ah, vous êtes jamais allé au
Courtepailles? Non,
ça
je suis un peu déçu. Mais c'est pas
France.
Trop tard. Bon. Ça change demain. C'est qui va reprendre Courtepailles? Ça reste français?
On le sait pas encore pour l'instant, mais effectivement le fonds qui a Courtepailles aujourd'hui serait en train de le vendre.
Bon.
Cherche repreneur.
Vous publiez
Anaïs Bouissou
pour les sandwichettes poutardes. Vous publiez Histoire insolite des marques. Anaïs, c'est chez City. Alors on est toujours dans cette ambiance de route et de vacances puisque on va parler maintenant de Bison Futé, 2 août 1975. Pourquoi c'est une date clé?
Parce que c'est une catastrophe. Le 2 août 1975, il y a 600 km de bouchons sur les routes, 600 km de voitures agglutinées, parce qu'il y a les juilletistes qui remontent de vacances, les Aoussiens qui descendent en vacances. Et alors, ça faisait déjà quelques années que c'était quand même assez embouteillé en France à cette période-là. Mais là, en 75, c'est la catastrophe. Tout le monde est arrêté. En plus, il fait hyper chaud. À l'époque, les clims dans les voitures, c'était quand même pas ce qu'on faisait encore.
On était peu,
voilà,
on
était
là, c'est
75.
Là que le gouvernement s'en mêle, évidemment.
Alors oui, parce que le lendemain, toute la presse titre au scandale, situation kafkaïenne, que fait l'État? Voilà, ça devient un enjeu politique majeur. Et il faut trouver très vite une solution, effectivement.
Et alors, donc, il y a la proposition quoi, de créer, parce que c'est une marque, mais c'est un service public aussi.
En fait, au tout départ, le but, c'est de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de faire en sorte que la situation de bouchons ne se reproduise pas. Donc, il y a une grande enquête qui est lancée avec la sécurité routière auprès des automobilistes pour essayer de comprendre quand est-ce qu'ils partent en vacances, combien de temps ils mettent sur les routes, qui est dans les voitures, etc.
Incroyable.
Et le but, ça va être de pouvoir prévoir, un petit peu comme la météo, mais là, ça va fait pour les bouchons, de pouvoir prévoir quand les gens partent pour leur dire essayez d'étaler vos départs, ne partez pas ce jour-là, ne partez pas sur cette route-là. Et donc c'est un service qui va être créé, et pour faire en sorte que ce service soit efficace auprès de la population, soit vraiment entendu, on va créer une marque qui va avec, et ça va être bison futé.
Oui, mais quel rapport avec les Indiens justement, parce que
alors,
il fallait quand même, c'est tortueux pour arriver à un bison futé. Enfin, un bison futé, c'est son nom d'Indien, quoi.
Il y a tout un travail qui a été fait. Il faut savoir que, en fait, le but c'était d'être pétillant, le but c'était de voilà, que les gens sachent tout de suite de quoi on parle. Donc on a réfléchi à un dauphin vif, on a réfléchi à Ginette la girafe, on s'est dit pourquoi pas l'oiseau Timothée, puis finalement ça claquait pas assez, ce qui claquait le plus c'était l'Indien qui fait du tam-tam, ça s'entend, l'Indien qui fait du tam-tam, il est futé, il voit loin, il va pouvoir prévoir ce qui va se passer, et on est parti sur cet Indien-là, et puis ça a très très bien fonctionné très vite.
À peu près à la même époque que Radiola, un exploitant agricole pied-noir crée Orangina.
La curiosité est un vilain défaut.
Et puis un jour, il y a eu l'association avec la lambada. Du coup, la pulpe, elle n'est plus restée en bas.
RTL. J'ai eu comme professeur le doyen de la faculté, moi. Tu les avais plus, ces facultés, depuis un moment déjà.
Si Denis Bonnec.
Orangina, on l'appelait.
Thomas Hugues.
C'est complètement secoué, hein.
Le prof totalement secoué qu'on surnomme Orangina. On découvre les marques qui fleurent bon l'été. On raconte leur histoire avec Anaïs Bouissou, journaliste au service éco d'RTL, évidemment. Et donc, Orangina, tout de suite, c'est vrai cette histoire de liée à la lambada, à ce tube de l'été?
Oui, c'est une bonne idée marketing, une très bonne idée marketing de la marque Orangina, on va dire, parce que la lambada, c'est l'été 1989. Cet été-là, la marque décide de sponsoriser ce clip de la lambada. On vient de l'entendre, il est quand même très entraînant, très festif. Et ce clip, il fait un carton d'audience, c'est un succès fou. 1 700 000 vues rien qu'en France, 500 millions dans le monde. Et forcément, d'être associé à ce type de marque, l'été, ça bouge, etc. Pour une marque comme Orangina, bah, ça a été la totale à ce moment-là.
Qu'on ne sait pas forcément, et c'est ce que vous allez nous raconter, Anaïs Bouissou, maintenant, c'est une boisson, l'Orangina, qui a été créée en Algérie.
Oui, le fondateur d'Orangina vivait à côté d'Alger dans les années 50. Donc toute la chaîne d'approvisionnement d'Orangina était algérienne.
Ça marchait bien là-bas ?
Ça marchait bien, bien sûr, oui, ça marchait très bien. C'était une boisson qui était une boisson locale autour d'Alger. Et en fait, les choses vont changer pour Orangina. Le destin d'Orangina ainsi que le destin du fondateur d'Orangina, Jean-Claude Beton, les deux vont changer vraiment au moment de la guerre d'Algérie.
Il va devoir revenir en France,
on
l'imagine.
Se rendre en France, en fait. Ouais. Il habitait à côté d'Alger. Mm-hmm. Jean-Claude Beton, il est très marqué par notamment l'assassinat du maire de son village. Et là, c'est l'élément déclencheur. Il se dit, moi, en tant que commerçant, je ne peux pas continuer à exercer mon commerce parce qu'il y avait quand même des ruptures de la chaîne d'approvisionnement. Il y avait des grèves. Enfin, c'était très compliqué pour le commerce. Et puis lui, à titre personnel, il est marqué par l'assassinat du maire de son village. Il prend tout de suite une décision. C'est-à-dire de se rendre en France. Il va changer toute la chaîne d'approvisionnement d'Orangina. Il va s'approvisionner en orange du Maroc. Il va y avoir des usines d'embouteillage qu'il va devoir recréer en France. Il va s'installer à Marseille. Et c'est ce qui va faire que la marque Orangina va devenir française.
Et pas que ça, il y a aussi des ambassadeurs naturels de cette boisson Orangina.
Oui.
Qui sont ces ambassadeurs, Anaïs ?
Oui, alors ce sont les soldats français qui étaient basés en Algérie et qui, à la fin des années 50, vont revenir en France. Donc, vous me demandiez si c'était une boisson qui était connue. Oui, c'était une boisson qui était connue en Algérie, à tel point que les soldats français la découvrent en Algérie. Et quand ils reviennent sur le territoire français, ils disent « Ah mais oui, mais Orangina, c'était pas si mauvais. »
Parce qu'il n'y en avait pas sur le marché métropolitain, puisque l'Algérie, c'était la France à l'époque. Ah oui, d'accord.
Pas avant
les années 50. Après la guerre d'Algérie qui revient. Ça y est, j'ai enfin compris. Je suis un peu lent aujourd'hui.
La glace.
Vous vouliez une glace Miko, c'est ça. Alors, l'aventure, elle débute au début des années 1920. Oui. Vous pouvez nous raconter ça, Anaïs ?
Alors, c'est une famille de 5 personnes qui habitent à Saint-Dizier et qui, en fait, au départ, la famille Ortiz vend des glaces, des gros bacs de glace derrière des carrioles. Donc, en fait, ils se déplacent, ils font des kilomètres par jour pour aller vendre leur paquet de glace. C'était pas du tout la petite glace Miko qu'on connaît aujourd'hui.
Mais c'était quand même des glaces sucrées, aromatisées, etc.
Il n'y avait pas autant d'arômes qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus classique.
Et puis un jour, ils ont un coup de pouce du destin et ça se passe en 1936. Oui. Qu'est-ce qui arrive à cette famille de Saint-Dizier ?
À partir des années 36, il y a les congés payés, les deux semaines de congés payés, et puis il y a tout le développement de la culture du loisir. Ça passe notamment par les cinémas. Donc il y a des cinémas qui se développent en masse. À Saint-Dizier, en quelques années, il y a déjà 5 cinémas quand même qui s'installent. Et la famille Ortiz se dit, ah ben, plutôt que d'aller faire des kilomètres avec notre carriole, on va se poster directement devant les cinémas le samedi soir, le dimanche, et puis on va vendre nos petits bacs de glace.
Donc ça, c'est à la sortie ou à l'entrée des cinémas.
Des cinémas, oui.
Et aujourd'hui, on consomme des glaces pendant le film, elles sont vendues à l'intérieur. Est-ce que c'est aussi cette famille qui a eu l'idée d'associer vraiment la consommation de la glace et du film ?
Oui. Petit à petit, en fait, ils ont fini par rentrer dans les cinémas. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les glaces Miko se vendaient aussi à l'intérieur. Mais ça, c'est des années après. C'est plutôt dans les années 60 que ça se développe. Mais oui, c'est eux qui se sont dit, on va essayer d'habituer le spectateur. C'est l'occasion de regarder un film et de partager un moment de plaisir en famille.
Et puis surtout, ce qu'ils ont inventé, Anaïs Bouissou, c'est ce chocolat qui tient la glace.
Oui.
Ça, c'est incroyable. Grâce à l'huile de copra, je crois bien.
Ils ont réussi aussi à faire passer le petit bac de glace, l'assiette de glace qu'on mangeait avec une cuillère, au bâton. Le petit bâton Miko, c'est quand même une invention qui permet de manger de la glace quand même beaucoup plus facilement.
Le pastis, c'est une boisson qui est pour les grandes personnes, mais après, si on en boit trop, comme mon papy, il adore ça.
RTL.
Si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres quelquefois.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je sais pas si c'est de l'alcool.
La curiosité.
Je maîtrise la consommation.
Est un vilain défaut.
Parce que je te signale que l'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. 25% du budget vacances, alors ça va, hein.
C'est sûr que le jour où ils inventeront le Ricard Diesel, on fera des économies.
C'est très bon. Vous ne vous souvenez pas de ça,
mais
c'est dans le film Camping.
Mais bien sûr, le Ricard Diesel. Mais quelle bonne idée de pochetron!
Mais elle est dingue, cette archivina aussi. Oh, pardon. Cette archivina où des enfants parlent du pastis sans pensant que c'est pas de l'alcool. Bon, ça doit dater d'il y a quelques décennies, comme ça, on l'espère.
On vous raconte les secrets, l'histoire de ces marques de l'été. On a vu Bison Futé, Miko, Courte Paille, Orangina. Et avec Anaïs Bouissou, journaliste au service Éco d'RTL, on va maintenant se passionner pour ce Ricard. Qui est à l'origine de cette boisson alcoolisée anisée?
C'est Monsieur Ricard.
Bien, bravo. Bravo.
Meilleure question de la semaine, meilleure
Franchement,
réponse.
Franchement, Anaïs, toutes ces années d'études pour en arriver là.
Je suis désolée.
Paul Ricard, dans les années 30, c'est un jeune entrepreneur et effectivement, il est basé à Marseille. Il invente cette boisson qui est à la base très locale. Très très local et c'est le vrai pastis de Marseille.
Alors on parlait tout à l'heure de l'effet des congés payés de l'été 36 sur les glaces Miko. Là aussi il y a eu un impact sur la consommation de Ricard.
Ah oui, bien sûr. En 36, c'est les accords de Matignon. On a la semaine de 40 heures, la journée de 8 heures, etc. Et on a aussi les deux semaines de congés payés. Ça veut dire qu'il va y avoir 600 000 ouvriers qui vont être comme ça sur les routes de France.
Beaucoup à vélo d'ailleurs.
Beaucoup à vélo, il y avait aussi en train, il y avait des tickets à prix restreint quand on prenait le train, et puis il y avait en voiture aussi tout simplement.
Et c'est-à-dire que les vacanciers vont rapporter du sud des bouteilles de Ricard, c'est ça ?
Oui, pour la première fois, beaucoup d'entre eux vont descendre le long de la route nationale, notamment ceux qui sont en voiture, la route nationale 7, ils descendent vers le sud. Et ils découvrent notamment, il n'y a pas que ça, mais ils découvrent notamment cette boisson qui est produite aux alentours de Marseille. Et en fait, c'est aussi le pari de Paul Ricard, c'est de dire il faudrait que les vacanciers qui descendent, qui découvrent cette boisson, en aient envie et la remontent avec eux dans leur bagage. Et ça va fonctionner.
Mais comment il l'a fait connaître en fait ? C'est de la publicité toute simple ou
Il y a eu deux choses. Il y a eu... D'une part, la publicité, la réclame avec des grandes affiches 4x3 où il a associé comme ça le Ricard avec les couleurs bleues, les couleurs jaunes, le soleil, la mer. Ça chantait, c'était frais. Alors, c'est des choses qui pourraient plus faire aujourd'hui, hein, les affiches de cette façon-là pour vendre de l'alcool, ce serait plus tout à fait possible. Il y a cette partie-là et puis il y a le fait qu'il a dépêché énormément de commerciaux dans les bars du coin pour vendre le Ricard, pour vendre les bienfaits le goût du Ricard. Et ça, ça a bien fonctionné aussi.
Encore un petit mot sur Paul Ricard, il était en avance sur les droits des travailleurs.
Oui, en 36, il y avait deux semaines de congés payés pour tout le monde. Chez Ricard, il y avait trois semaines de congés payés. Et un petit peu plus tard, ça s'est poursuivi d'ailleurs dans les années 60, en 65, au moment où en France, on autorisait 4 semaines de congés payés. Ricard, lui, il en autorisait 5.
Vous souvenez de vos vacances à Carnac?
C'est moi qui voulais dire d'abord. Vous avez déjà porté des méduses? Ah, je portais des méduses à Carnac, je me rappelle.
Bah oui,
j'allais dans les rochers, comme ça, je pêchais des petites, vous voyez, dans les mains.
Oui, ça vous permettait de vous prendre pour une aventurière. C'est une marque d'ailleurs, Méduse?
Oui, en fait, c'est un nom qui s'est imposé.
D'accord.
À la base, ça ne s'appelait pas du tout Méduse, c'était des chaussures qui s'appelaient...
Des sarésiennes, ouais, c'est ça? C'est ce que j'ai lu dans votre livre. Ah ben, on vous a lu attentivement.
C'était des sarésiennes.
Ouais.
Mais à la base, ça n'a rien à voir avec la petite chaussure flashy...
Un peu mode, enfin entre guillemets.
Peu, oui, un peu mode des années 80.
Pardon, mais Méduse mode, il y a un truc qui ne va pas. Bref, pardon. Alors, donc au
mais
départ,
enfants,
ça ressemble à
mignon.
Quoi? Oui, voilà, c'est ça.
Oui, c'est vrai que c'est mignon. Au départ, en fait, c'est des espèces de... En fait, c'est un coutelier qui à la base, utilisait... Alors, ça, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la sandale, à la base. Hein. Ce coutelier, il s'est dit, pourquoi pas tenter de faire des couteaux avec un manche en plastique au lieu du manche en bois. Ça fonctionne bien. Et puis, de fil en aiguille, il se dit, ah bah, et si je faisais ça pour mes chaussures? Il remplace les semelles de bois de ses chaussures par des semelles en plastique.
Plus léger.
Plus léger. Alors, autant vous dire que c'était pas beau, que c'était pas très pratique, mais c'était solide. Et donc, il y avait la semelle en plastique sous le pied, et puis il a mis des petites lanières en plastique sur le pied, ça tient le pied et ça fonctionne bien. En fait, ça part de là, la méduse.
Et donc, ça s'appelle la sarésienne au départ. Et comment ça se diffuse sur le territoire français?
D'abord, c'est vendu dans les colonies, en fait. C'est pas tout de suite vendu en métropole, en France métropolitaine. Et c'est vraiment petit à petit, avec le temps, que ces espèces de chaussures vont s'améliorer, vont être un petit peu plus design. Et on va aboutir aux méduses qu'on connaît sur les plages.
Oui, mais c'est pratique, comme ça, on peut aller dans les rochers, les enfants, vous voyez, peuvent aller dans la mer.
Ah, vous en avez porté, regardez pas comme si...
Mais vous avez quel âge que vous en avez porté, alors?
Il y a 52 ans.
Génial. Ah, il y a 52 ans.
Non, 52 ans.
Il y a même eu les...
Ah oui, moi, je refusais de porter des méduses avant.
Il y a même eu les méduses transparentes avec les petites paillettes. Je sais pas si vous avez...
Oui, c'était celle-là. C'était celle-là que j'avais choisie, évidemment.
Franchement, je ne me lasse pas d'en découvrir sur vous, Thomas Hugues. Merci.
Je vous manquais. Hein.
Ah, énormément, vous n'avez pas idée. Anaïs Bouissou, merci. C'est toujours un bonheur de vous avoir
merci
au micro.
Anaïs.
Merci à vous.
Histoire insolite des marques pour prolonger ce plaisir du savoir intelligent. C'est chez City. À bientôt, Anaïs.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.